Effectivement, comme est indiqué sur cette diapositive, je vais vous parler de réponse immunitaire chez les plantes et faire, quand c'est possible, une comparaison avec les humains. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation, Azine a commencé à le faire sur notre laboratoire de recherche. Donc j'appartiens, comme Azine et comme ma collègue Marie-Laure qui est présente ici, au laboratoire glycobiologie de l'Université de Rouen. Et matrice extracellulaire végétale, hein, donc le glycomev, c'est pour glycobiologie et matrice extracellulaire végétale. Et donc, avec Marie-Laure, nous sommes particulièrement impliqués dans ce volet-là, glycomolécules et défense racinaire. Et avec Marie-Laure, donc, nous comportons ce projet sur les cellules bordantes de racines et la défense. Alors, je vous expliquerai par la suite ce que c'est que ces cellules bordantes de racines. Donc, je vous parlerai à plusieurs reprises de la paroi cellulaire végétale ou de la matrice extracellulaire végétale. C'est une grosse différence avec les animaux, avec les humains, c'est que chaque cellule est entourée par un compartiment qui s'appelle la paroi cellulaire végétale ou encore la matrice extracellulaire végétale, comme vous le voyez ici sur ce schéma. Et au sein de notre laboratoire, nous nous intéressons donc à la structure et aux fonctions de cette paroi cellulaire végétale. Chez plusieurs plantes, que j'ai représentées ici, hein, ça peut être chez la plante modèle de laboratoire Arabidopsis thaliana, mais également chez des plantes d'intérêt agronomique, le pois, la pomme de terre. On travaille également avec des partenaires dans le domaine de l'horticulture, on travaille notamment sur l'oranger du Mexique ou encore sur le lin. Donc on s'intéresse, on utilise différentes techniques, on utilise des approches de microscopie, des approches de biochimie, des approches de biologie moléculaire pour comprendre en fait comment se met en place cette paroi cellulaire végétale, comment se fait la biosynthèse de cette paroi. Et puis, donc là vous avez un schéma, vous avez une photo de microscopie électronique de la paroi cellulaire végétale, hein, ce compartiment entre deux cellules. Et vous avez ici un schéma qui représente cette composition, cette architecture de la paroi cellulaire végétale. Et donc, on s'intéresse plus particulièrement au sucre, aux polysaccharides et aux glycoprotéines de la paroi. Donc, sans rentrer plus dans les détails. Donc, à certains moments, effectivement, quand je parlerai de la réponse immunitaire, bien évidemment, je ferai quelques appels à cette paroi, puisque nous, on travaille sur la paroi cellulaire végétale. Donc c'est pas juste cette paroi cellulaire végétale, c'est pas juste un compartiment inerte autour de la cellule, hein, c'est un compartiment qui est très dynamique et qui va répondre au stress. Et donc le stress, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui chez les plantes. Dans le cadre de ce séminaire, je vais parler de la réponse immunitaire, mais je vais me focaliser beaucoup autour des plantes et des stress, parce que les plantes aussi, elles peuvent être stressées. Et donc, pour commencer, je voudrais vous présenter et vous rappeler en fait à quel point en fait ces plantes peuvent être très diverses, très variées. Quand on parle du règne végétal, on part de petites cellules ici, des microalgues qui font quelques micromètres. Ce serait une taille de cellule sanguine, par exemple. Mais ça peut aller jusqu'à ces arbres qui font. Donc là, c'est l'exemple du séquoia géant qui peut faire plusieurs centaines de mètres de haut. En passant par plein de plantes qui parfois sont également douées de mimétisme. Vous voyez, certaines plantes en fait ne ressemblent plus trop à des plantes. Là, c'est l'exemple de plantes qui vont ressembler un petit peu à des cailloux. On reviendra dessus, c'est un mécanisme de mimétisme pour se protéger, parce qu'on en est vraiment dans la rubrique stress-protection. Ou encore ici, si vous regardez cet exemple d'orchidée, elle a une forme un petit peu d'insecte, puisqu'elle va essayer de mimer des bourdons, des abeilles, pour attirer des pollinisateurs. Ou encore ici, d'autres plantes qui vont essayer de mimer des cadavres d'animaux en Afrique pour essayer d'attirer des pollinisateurs. Donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu la grande diversité qu'on va retrouver au niveau des plantes. Et ces plantes, elles sont. On a parfois un petit peu tendance à l'oublier, mais ces plantes, elles sont présentes à plusieurs niveaux dans notre quotidien. Sans les plantes, nous, on ne serait pas là. C'est vrai que souvent, quand on parle de biologie, effectivement, on pense à la médecine, etc. Et c'est très important, mais s'il n'y avait pas les plantes, nous, on ne serait pas là également. Les plantes, en fait, c'est la base de notre alimentation. Elles interviennent dans l'alimentation, dans l'agriculture, alimentation humaine, mais également alimentation animale. Elles sont utilisées également comme source de molécules à intérêt thérapeutique. Donc, voilà, madame avec qui je parlais tout à l'heure, qui est pharmacienne, ne va pas me contredire, je pense. Effectivement, beaucoup de. Voilà, proviennent l'aspirine, par exemple, ou des molécules anticancéreuses, en fait, proviennent de plantes au départ, ou ont été isolées dans les plantes. Dans le domaine de la cosmétique aussi, beaucoup d'applications des plantes. L'horticulture, la viticulture, et puis également dans le domaine du textile. On est dans une région en fait, pour laquelle la plante lin occupe une place importante, et notamment pour l'obtention des fibres de lin. Donc je rappelle vraiment que les plantes, hein, ce n'est pas juste la petite plante verte qu'il y a sur le bureau, elle est vraiment dans notre quotidien, elle a une place qui est essentielle, et sans elle, eh bien, on ne pourrait pas vivre. Et donc ces plantes, ces cultures, il faut les protéger. Vous savez, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Azdine en a déjà parlé. En fait, il faut protéger les cultures tout en protégeant et en respectant la santé humaine et l'environnement. Donc, c'est un axe important de la recherche actuellement. Donc là, je vous ai présenté toutes les plantes. Je ne vais pas vous parler dans mon exposé des lichens, des mousses, des algues et des fougères. Je vais vraiment me focaliser sur les plantes qui sont appelées les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, les plantes à graines. C'était juste pour vous rappeler un petit peu le règne végétal. Donc on va essentiellement, nous, parler sur ces plantes à fleurs et ces plantes à graines. Ces plantes, on va les retrouver partout au niveau du globe terrestre. Elles ont colonisé vraiment tous les milieux, que ce soit les milieux aquatiques, marins ou dans les fleuves, dans les lacs, etc. Elles ont colonisé également des milieux très, très arides. On peut prendre l'exemple de la toundra et de la taïga en Laponie. L'exemple des déserts également. Il y a certains endroits où c'est vraiment très aride et pourtant les plantes sont là. Des fois, vous voyez des plantes sur des murs, hein, on se demande comment elles font pour pousser, et pourtant, elles sont là également. Donc, ces plantes, elles arrivent à s'adapter à diverses conditions, mais elles sont également soumises à de nombreux stress, et elles ont la faculté, ces plantes, de s'adapter à ces nombreux stress. Tous ces stress, on va les mettre en deux catégories. Au début, je vais commencer à vous parler des stress abiotiques. Alors, les stress abiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est dans cette catégorie-là, on va mettre tous les stress qui ont lieu à l'environnement, des conditions de température trop élevées, de la sécheresse, des inondations, des métaux lourds par exemple, toxicité avec l'aluminium, tout ça en fait, ça fait partie des stress abiotiques. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai plutôt des stress biotiques, et donc des agresseurs par des champignons, par des nématodes, par des virus, etc. Donc sa cellule végétale, elle est capable de percevoir ces différents stress et d'induire toute une cascade de signalisation pour modifier son métabolisme ou pour modifier sa morphologie. Donc dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué, je vais me focaliser plutôt au niveau des stress abiotiques, mais en prenant l'exemple de la sécheresse. Et des fois, on ira même dans un degré plus extrême que la sécheresse, on parlera même de dessiccation. Et donc, dans un premier temps, je vais illustrer un petit peu comment la plante, elle peut se défendre en s'adaptant au niveau de sa morphologie. Puis après, plus progressivement, on prendra d'autres exemples pour aller voir, au niveau de la morphologie, au niveau des tissus, comment ça se passe. Et après, au niveau de la cellule, on ira plus finement regarder quelles sont les molécules de défense que les plantes sont capables de produire. Brièvement avec la sécheresse, et puis ensuite, un petit peu plus en détail, au niveau de la réponse immunitaire contre des agresseurs biotiques, contre des pathogènes. Donc voilà ce que je vous propose pour cet exposé. Donc tout d'abord, adaptation des plantes à la sécheresse. Il y a plusieurs façons de s'adapter à la sécheresse. Donc je voulais illustrer avec des plantes que je trouve assez étonnantes, que je trouve particulières. Donc premier exemple, vous les connaissez peut-être, d'adaptation à la sécheresse. C'est le cas des plantes qu'on qualifie d'éphémérophytes. Donc éphémérophytes, ça veut dire un seul jour. Bon, c'est un peu exagéré, elles ne durent pas qu'un seul jour. Mais ces plantes, elles sont très particulières dans la mesure où elles vont survivre la majeure partie de leur vie sous forme de graines. C'est l'exemple de plantes qu'on va retrouver dans la région du Namaqualand. Là, vous avez l'Afrique du Sud. Et si vous prenez cette région-là, c'est une région qui est très, très riche d'un point de vue de sa flore, en fait, au niveau botanique. Elle est très réputée. C'est une zone qui est semi-aride. Et si vous passez dans cette zone-là, par exemple, au mois de décembre, janvier, hein, c'est la période voilà, si on passe, c'est en hémisphère sud, donc c'est inversé les saisons par rapport à nous. Si on passe dans cette période-là, lorsqu'il n'y a pas de pluie, vous voyez aucune plante du tout. Vous voyez sur des centaines de kilomètres, vous allez voir, c'est des cailloux, etc., des roches, du sable. Si vous repassez à la saison des pluies, donc au début du printemps, c'est-à-dire fin du mois d'août, mois de septembre, cette partie du désert va être recouverte de tapis de fleurs sur des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un petit peu d'humidité, toutes les graines qui étaient présentes dans le sol vont toutes germer en même temps et la plante va se développer. Elle va se développer très rapidement, c'est-à-dire que l'eau est disponible pendant un tout petit moment de temps. Donc pendant ce petit moment-là, elle va se dépêcher de former des racines, de former des feuilles et très rapidement, de former des fleurs pour pouvoir se reproduire, reformer des graines. Donc vraiment, leur adaptation, c'est d'aller très vite, c'est de plus rapidement possible, elles forment des graines pour pouvoir se reproduire. Des fleurs très colorées, il faut attirer les pollinisateurs, il faut que les fleurs elles soient vues. Et puis après, tout le reste du temps, peut-être pendant 11 mois de l'année, voire plus s'il n'y a pas suffisamment d'eau, eh bien, elle va passer sa vie, cette plante-là, sous forme de graines ou sous forme de bulbes au niveau du sol. Ça, c'est un premier exemple de plantes qui peuvent s'adapter à la sécheresse. Il y en a d'autres, des formes d'adaptation à la sécheresse, au stress hydrique. Et là, j'ai choisi une plante en fait, qui est vraiment, enfin, que je trouve vraiment spectaculaire en fait, et qui est vraiment impressionnante. C'est Welwitschia mirabilis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plante-là. Alors, quand vous la voyez comme ça, vous avez un peu l'impression qu'elle est peut-être un petit peu amorphe. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette plante ? En fait, c'est une plante qui est impressionnante. Sur la photo, on ne dirait pas, mais elle fait plusieurs mètres de diamètre. C'est vraiment une très grande plante. Il n'y a que deux feuilles au départ. Il n'y a que deux feuilles. Et qui vont s'effilocher parce que les conditions sont très, très arides. Là, on est dans le désert du Namib. C'est Moon Landscape. Alors, Moon Landscape, en anglais, ça veut dire désert, paysage lunaire. Donc là, vous voyez, le sol, il est tout craquelé. Il n'y a vraiment pas d'eau du tout, du tout. Et ben, si vous regardez, là, il n'y a pas d'autres plantes. Dans cette région-là, vraiment spécifique du désert du Namib, il n'y a aucune autre plante. La seule plante qu'on va retrouver, c'est Welwitschia mirabilis, qui va pouvoir survivre à ces conditions très arides de par son système racinaire, de par ses protéines, qui sont très, très résistantes en fait, aux fortes températures. Et puis, si j'ai choisi cette plante-là, c'est parce qu'en fait, c'est la plante qui est estimée comme étant la plus ancienne. Donc, c'est le docteur Welwitsch qui l'a découvert en 1850. Donc, une plante vraiment, vraiment atypique. Autre mécanisme d'adaptation à la sécheresse, adaptation morphologique, je suis toujours dans les adaptations morphologiques. Vous connaissez tous les plantes grasses qu'on appelle les malacophytes, les cactus. Ici, on a une stratégie différente, c'est-à-dire que les plantes, elles vont faire des réserves d'eau, elles vont stocker l'eau. Et donc, elles vont développer des organes aériens qui sont très massifs. Et comme exemple, j'ai choisi cette plante qui est vraiment impressionnante, le Sagarocactus, en fait, qui peut faire 10-20 mètres de haut, qui est une plante vraiment très très haute, et qui peut stocker jusqu'à 3000 litres d'eau. Donc, c'est une plante qui est impressionnante. On la trouve où ? On va la trouver en fait en Arizona. Ça, c'est une collaboration qu'on a avec le professeur Martha Hoss qui est à l'université d'Arizona. Et quand vous êtes dans cette région, vous voyez, ce sont des forêts en fait. Ces plantes-là, on les voit partout. Donc moi, je fais 1m65, donc tout, vous pouvez voir un peu, vous avez une idée du coup de la hauteur de ces plantes-là. Et c'est, voilà, donc je trouve vraiment ces plantes admirables. D'autres exemples de cactus, vous connaissez d'autres, ou de forbes ici, encore là, donc ils vont développer des épines, en fait, qui vont avoir un métabolisme, une photosynthèse un petit peu particulière pour faire face à ces conditions de sécheresse. Et puis, j'arrête là sur les plantes. Après, je voudrais passer aux plantes revivissantes. Encore un autre exemple de plantes malacophytes, parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de mentionner. Là, on a vu des plantes très, très grandes. On va arriver maintenant sur des plantes toutes petites, donc des plantes qu'on appelle des plantes cailloux. À nouveau, ce sont des plantes grasses qui vont faire des réserves d'eau. Et ces plantes, vous pouvez passer à côté sans les voir, parce que là, déploient des mécanismes de mimétisme, c'est-à-dire qu'on est dans le désert, toute source d'eau est bonne à prendre pour les mammifères, il n'y a pas beaucoup d'eau, et donc pour éviter d'être consommée par des prédateurs, cette plante elle va essayer de se confondre avec les cailloux pour passer inaperçue et se protéger. Donc là, c'est pareil, c'est des plantes qu'on va retrouver à nouveau en Afrique du Sud, dans une région bien particulière d'Afrique du Sud. Et puis, un petit peu dans le même esprit, vous avez les plantes qu'on appelle les plantes fenêtres. Et donc, ces plantes-fenêtres, elles vivent enfouies dans le sol pour éviter qu'il y ait trop de chaleur. En étant dans le sol, on est protégé plus des fortes chaleurs. On est protégé également contre les mammifères pour éviter d'être mangé. Et puis, vous voyez, une petite surface au départ, ici, qui laisse passer la lumière. Et donc, la photosynthèse, elle se fait à l'intérieur du sol. Elle se fait, les tissus chlorophylliens sont là. Et donc, la plante peut quand même vivre, il n'y a pas de souci, mais en étant protégée dans le sol. Donc, voilà pour ces plantes un petit peu particulières, un petit peu atypiques, et que je trouve vraiment extraordinaires. Alors, chez nous, qu'en est-il ? Je vous ai parlé des déserts, je vous ai parlé des conditions arides. Chez nous aussi, on a des plantes adaptées à la sécheresse. Bon, je suis désolée, en ce moment, c'est peut-être pas trop le moment de vous montrer ça, mais il y avait un article qui était paru dans lequel on mentionnait les steppes normandes. Et effectivement, sur tous ces coteaux calcaires, toutes ces falaises calcaires, on a une végétation qui est adaptée à la sécheresse. Alors pourquoi ? Parce que le calcaire ne va pas retenir l'eau, donc l'eau va s'écouler. Pour peu que ce soit orienté du côté sud, avec le vent, etc., ces plantes se trouvent en condition de sécheresse. Alors, on ne va pas avoir de grands cactus par chez nous, mais par contre, on va avoir des petits orpins qui, pareil, vont faire leur réserve d'eau. On va retrouver la violette de Rouen, qui est bien connue, qui, elle, va avoir un système racinaire très développé pour aller récupérer l'eau, des petites graminées, etc. Et en général, dans ce type d'habitat, on va retrouver une très, très grande richesse floristique. Si vous prenez un mètre carré, vous allez retrouver jusqu'à une quarantaine d'espèces différentes, alors que dans un milieu qui est très riche, vous allez avoir la même espèce qui va se développer, mais vous n'allez pas avoir une telle richesse, une telle diversité en termes de plantes. Donc nous aussi, par chez nous, on a nos plantes adaptées à la sécheresse. Alors maintenant, Azine, tout à l'heure, vous a parlé des plantes revivissantes, les resurrection plants, qu'on appelle encore les plantes de la résurrection. Alors pourquoi plusieurs labos s'intéressent à ces plantes-là ? Eh bien, il est important de comprendre un petit peu les mécanismes de tolérance à la sécheresse, parce que vous savez qu'on est dans une situation en fait où on est exposé à des changements climatiques, et donc la sécheresse, c'est le manque d'eau en fait, va être préoccupant. Et donc, ces plantes de la résurrection sont l'un des modèles pour essayer de comprendre les mécanismes de tolérance à la sécheresse. Donc, un exemple ici des plantes revivissantes ou des plantes de la résurrection. Donc, ce sont les plantes sur lesquelles on travaillait au laboratoire en collaboration avec le laboratoire de Gilles Farrant. Les travaux, vraiment, ce sont les plantes dans le laboratoire de Cape Town, ici, de chez Gilles Farrant. Je reviendrai dessus sur cette collaboration. Vous avez un exemple ici, c'est Craterostigma wimsheim. Donc là, vous voyez la plante bien hydratée, verte, avec ses feuilles. Tout va bien. Ici, alors, faut regarder un petit peu plus en détail, on la voit moins bien. La plante, elle est là. Elle est cachée, elle est ici. La plante hydratée, la plante déshydratée. Qu'est-ce qui se passe chez cette plante-là quand elle est en situation de stress hydrique ? Les feuilles vont se replier. La plante va vraiment être compacte. Et puis, l'idée, c'est qu'en fait, la partie qui est importante pour la plante, pour former des nouvelles feuilles, etc., elle va se trouver protégée par les anciennes feuilles qui, entre guillemets, vont se suicider pour protéger le petit bourgeon qui est au milieu. En fait. Donc, les feuilles se replient. Et puis, si vous regardez bien, la plante, elle n'apparaît plus verte. Elle change de couleur. Donc là, on va commencer progressivement à arriver dans les mécanismes cellulaires. Je vous avais dit moléculaire, cellulaire. Je vous avais dit au début, on regarde un peu ce qui se passe de façon générale sur la morphologie. Puis après, on va cibler, on va regarder au niveau de la cellule, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, cette plante, elle va accumuler des pigments pour se protéger de la lumière, du stress oxydatif de la lumière. Un peu comme la crème solaire, un peu comme nous, on prendrait, l'été, on met notre crème solaire. Cette plante-là, elle va accumuler des anthocyanes, des pigments, pour se protéger contre les rayons solaires. Et donc, c'est une plante qu'on va retrouver dans cette région-là, en fait, au-dessous du KwaZulu-Natal, dans la région de Ladenburg. Donc, voilà un exemple de plante revivissante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plante, quand elle est dans cet état-là, il n'y a plus du tout d'eau sous forme libre dans les feuilles. Là, on n'est même plus dans la stress sécheresse, on est dans la tolérance à la dessiccation. La plante, elle s'arrête de vivre. C'est pour ça qu'on l'appelle plante de la résurrection. Il n'y a plus de photosynthèse. Donc, plus de photosynthèse, il n'y a plus d'alimentation. La respiration, elle s'arrête. La plante ne respire plus. Elle ne peut s'arrêter de respirer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire chez quelques plantes, plusieurs années. Ce n'est pas un souci. Dès qu'il y a de l'eau, elle va se réhydrater et elle va reprendre son activité. En fait. C'est pour ça qu'on les appelle les plantes de la résurrection. Alors effectivement, quand vous voyez ce genre de plantes, si vous avez ces plantes-là chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de les jeter, voilà, elles sont mortes, etc. Non, vous remettez de l'eau, cette plante, elle va se réhydrater. Donc, au niveau moléculaire, voilà, c'est pas un mécanisme qui va permettre de conférer la tolérance à la dessiccation, mais il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre à la plante de se protéger contre ce stress hydrique. Vous voyez, là, une teneur en eau 100%, et là, on arrive à une teneur en eau qui est inférieure à 10%. Notamment, elle va synthétiser notamment des molécules antioxydantes. Alors pourquoi je cible par exemple ces molécules antioxydantes? Parce que c'est un peu comme les cellules de la peau. La peau, elle va, chez les humains, elle va produire également des molécules antioxydantes pour se protéger contre ce qu'on appelle les formes actives de l'oxygène, les radicaux libres. Et donc, si on veut s'amuser à faire un petit peu des parallèles, les plantes aussi sont capables de produire des molécules antioxydantes pour se protéger contre les radicaux libres. Parce que votre plante, quand elle est au soleil, comme ça, eh bien, elle va être sujette à ce stress oxydatif, à cette formation de radicaux libres. Et puis, elle va démanteler sa chlorophylle, son appareil photosynthétique, et elle va arrêter sa respiration. Si la plante est sensible à la dessiccation, vous voyez, CLDS, la plante, elle va mourir. Donc voilà, synthétiser un petit peu dans le cadre du stress hydrique chez ces plantes revivissantes, quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre. Alors nous, on s'est intéressé, je vous ai dit tout à l'heure, on travaille sur la paroi cellulaire végétale. Donc nous, on s'est intéressé, quels sont les mécanismes de protection au niveau de la paroi cellulaire végétale. Donc c'est des travaux qui ont été initiés en 1996, donc entre Asdin Drewish, je ne sais pas si vous le reconnaissez là sur la photo, parce que voilà, et puis le professeur Jill Farrant qui est à l'université du Cap en Afrique du Sud. Et puis suite à cette collaboration sur les plantes revivissantes, il y a eu plusieurs échanges d'étudiants, de thésards. Et puis à l'heure actuelle, on travaille toujours sur ces thématiques, mais cette fois-ci, maintenant également avec une post-doctorante qui travaille en partenariat avec l'Inde. Donc on a avec l'Afrique du Sud, mais également avec l'Inde. Et l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la paroi cellulaire végétale. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste un compartiment, c'est quelque chose d'inerte, c'est très dynamique. Si vous regardez la surface des feuilles hydratées, la surface des feuilles déshydratées, vous voyez, c'est tout ridé à la surface. Ce sont des photos en microscopie électronique à balayage, ça paraît tout ridé. Les cellules, en fait, subissent une perte de volume considérable. Et donc, nous avons mis en évidence que chez ces plantes-là, la paroi cellulaire végétale était capable de se replier dans tous les sens lorsqu'elle se déshydrate, et que la paroi était capable de devenir flexible pour pouvoir permettre une diminution de volume importante sans que ça engendre de dégâts mécaniques chez la plante. D'accord ? Donc, chez les plantes, ces plantes revivissantes sont caractérisées par une très grande flexibilité de leur paroi cellulaire végétale qui est induite lors de la déshydratation. Donc, ce n'est pas quelque chose de constitutif, mais lorsqu'il y a la déshydratation, la plante synthétise des molécules pour se protéger et en même temps va relâcher sa paroi cellulaire végétale. Et ça a formé ces grandes ondulations qu'on voit ici sur la photo. Donc voilà pour la partie stress abiotique. Je vous propose de nous intéresser maintenant au stress biotique. Donc les stress biotiques, j'ai repris ici une phrase qui était dans l'article de Boller et en 2009. Les plantes sont exposées à une quantité de pathogènes et pourtant, the world is still green. Pourtant, elles sont toujours vertes, elles sont toujours là. Donc en fait, ça veut dire que ces plantes sont capables de se défendre, comme ça a été indiqué tout à l'heure en introduction, et d'induire une réponse immunitaire pour se défendre. Donc les agents pathogènes chez les plantes, elles peuvent être constituées par des bactéries, des champignons, des homicètes, des nématodes, des insectes, des virus. Et donc, parmi les éléments pathogènes, je voudrais illustrer avec... je ne vais pas faire un catalogue de maladies. Je vais juste citer deux ou trois maladies qui, malheureusement, sont bien connues. L'agent pathogène, ici, avec des homicètes, vous connaissez tous le mildiou de la pomme de terre, qui, malheureusement, a été responsable de cette grande famine en Irlande. Donc voilà, c'est comme quoi sans les plantes, on peut pas, voilà, c'est, on peut pas vivre sans les plantes. Donc un exemple de maladie des plantes, hein, le mildiou de la pomme de terre. Un autre exemple qui malheureusement est d'actualité également aux Caraïbes, hein, c'est la maladie du dragon jaune, qu'on appelle encore le citrus greening. C'est un insecte, un psylle, qui va venir se nourrir sur les plantes et qui va injecter une bactérie. Et cette bactérie, en fait, bah, entraîne des pertes de culture très importantes, en fait, au niveau des agrumes. Donc tout ce qui est citron, mandarine, orange, pamplemousse est touché par cette bactérie qui est transmise par un insecte. Donc voilà un autre exemple de maladie. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de moyen encore pour l'instant de lutter contre ces maladies-là. Et puis, donc là, j'ai cité bactéries, j'ai parlé des insectes, j'ai parlé des oomycètes. Il y a également des champignons phytopathogènes. Juste un exemple qui va toucher notre région, en fait, au niveau du lin. On peut citer le cas de champignons tels que Verticillium Daliae ou Fusarium oxysporum, qui sont des champignons qui vont occasionner des maladies chez le lin, donc des maladies vasculaires chez le lin. Donc, ces pathogènes, en fait, occasionnent des maladies, des pertes bah, économiques, des pertes au niveau de l'agronomie. Et donc, bah, comme vous le savez, suite au Grenelle de l'environnement, en fait, on est amené à développer de nouvelles stratégies de protection des cultures, hein, qui, pour faire abstraction des pesticides ou des produits phytosanitaires qui peuvent être toxiques pour l'environnement. Et donc, bah, je vais citer quelques-unes des techniques qui peuvent être utilisées à l'heure actuelle pour essayer de lutter contre les pathogènes. Mais pour développer ces nouvelles stratégies de protection des cultures, bah, avant tout, un prérequis qui est indispensable, c'est une bonne connaissance en fait des interactions entre la plante et entre les micro-organismes. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir maintenant, comment, en fait, vous donner les grandes lignes. Comment la plante va réagir lorsqu'elle est attaquée par un micro-organisme? Parce que ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir mieux protéger nos plantes. Alors, bah, tout d'abord, je vais encore revenir avec la paroi parce que bah, voilà, on travaille sur la paroi. Contrairement aux animaux, contrairement aux humains, je voulais spécifier tout à l'heure, la cellule végétale, elle possède un compartiment supplémentaire qui s'appelle la paroi cellulaire végétale. Donc ça, c'est la première barrière, la première zone de contact entre la plante et le micro-organisme. Donc ça, c'est une barrière qui est constitutive, c'est-à-dire qui est pathogène ou pas pathogène. La cellule, elle est entourée par cette paroi. Et donc, bah, si un élément veut rentrer dans la cellule, il faut d'abord franchir cette paroi. Donc c'est un élément de protection supplémentaire par rapport à la cellule humaine, à la cellule animale. Au niveau des feuilles, cette paroi va être renforcée au niveau de l'épiderme par une couche de cuticule. Donc à nouveau, une barrière supplémentaire. Donc, on a des défenses qui sont constitutives chez les plantes. Mais en plus de ces défenses constitutives, on va également avoir des systèmes de défense qui sont des systèmes de défense inductibles. Et donc, je vous mets cette petite diapositive pour faire un petit peu le parallèle entre la réponse immunitaire chez les mammifères, chez les humains et chez les plantes. Ça veut dire qu'il y a des phases qui sont identiques, qui sont similaires. Exemple, pour pouvoir se défendre, il faut que la plante puisse reconnaître, savoir qu'il y a un élément pathogène qui arrive. Il faut qu'elle puisse le reconnaître, l'identifier. Et ça va se faire par les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui sont à la surface des bactéries ou à la surface des champignons. Quand le micro-organisme arrive au niveau de la cellule végétale, ben, il y a des petits fragments qui vont être reconnus par des récepteurs au niveau de la plante. Et à partir du moment où c'est reconnu par la plante, eh bien, ça va induire une cascade, une réponse immunitaire. C'est pareil ici chez les humains. Donc, cette phase de reconnaissance, elle est indispensable pour induire la réponse immunitaire. Et puis, une fois qu'on a cette reconnaissance, on va avoir des mécanismes qui vont être similaires, hein, que ce soit chez les plantes ou chez les humains. Enfin, similaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses dans lesquelles on peut faire les parallèles. Donc là, j'ai représenté une plante. Et là, imaginons, vous avez la zone d'attaque. D'accord? Le pathogène, il arrive au niveau des feuilles ici. C'est ce qu'on va regarder à plus fort grossissement. Donc là, vous allez avoir des molécules, en fait, hein, qui sont reconnues, comme je viens de vous l'expliquer, au niveau de la paroi cellulaire végétale. Ces petits fragments Par exemple, ça peut être une bactérie, vous avez le flagelle qui vous permet à la bactérie de se déplacer. Ça peut être des acides aminés au niveau de la flagelle qui vont être reconnus. Ces éléments, en fait, sont perçus comme des signaux de danger, d'accord, qui vont mettre la cellule en alerte. Suite à cela, vous avez toute une cascade au niveau de la cellule. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, si vous avez des questions, je veux bien entrer plus dans les détails. Mais vous avez des éléments très, très rapides, hein, c'est-à-dire que très rapidement, on va avoir des flux d'ions qui vont avoir lieu. Et l'activation de gènes de défense, comme par exemple des antioxydants, un renforcement de la paroi cellulaire, des molécules antimicrobiennes qui vont être synthétisées au niveau de la cellule qui est au contact avec le pathogène. Donc il y a des éléments qui sont instantanés, ça se fait dans l'ordre de la seconde, et d'autres qui mettent un petit peu plus de temps pour se mettre en place, parce qu'il faut synthétiser des protéines, il faut synthétiser des molécules, des antibiotiques, etc. Et puis après, ce qui va se passer, c'est que là, vous pouvez avoir même la mort des cellules. C'est-à-dire que les cellules qui sont au contact avec le pathogène peuvent, entre guillemets, se suicider pour confiner l'élément pathogène sur la zone d'attaque et éviter que ça ne se propage à toute la plante. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et donc, la plante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer des signaux, des hormones, au reste de la plante pour lui dire « Attention, je suis attaquée, mets-toi en veille parce qu'il est possible que la maladie ou que le pathogène se propage. » Et donc, on va avoir deux voies de défense qui peuvent être activées, ce qu'on appelle la résistance systémique acquise, ici, c'est-à-dire que la plante est mise en état de veille, ou bien également une autre voie qui s'appelle l'ISR, la résistance systémique induite. Et ces voies-là, en fait, sont importantes parce que nous, après, on peut les utiliser, à partir du moment où on a bien disséqué ces mécanismes, nous, on peut les utiliser aussi pour essayer de artificiellement, je dirais, stimuler la réponse immunitaire des plantes, un peu comme le cas des vaccins pour les humains. Donc ces voies en fait activées par les hormones qui mettent la plante en état de veille, eh bien, c'est utilisé pour faire la vaccination des plantes. Exemple, donc il y a plusieurs, je vous ferai voir un petit tableau tout à l'heure, mais je vais prendre un des premiers exemples qui a été fait. Chez les algues sont utilisées parce que dans la paroi des algues, on a des sucres qui sont des petits fragments de bêta-1,3-glucane et dont le motif est similaire à ce qu'on va retrouver chez des micro-organismes. Et donc, quand vous extrayez à partir de vos algues ces sucres et que vous les appliquez sur la plante, ces sucres vont être reconnus par les récepteurs de la plante. Et la plante, elle va croire que vous avez par exemple un homicète ou un champignon. Et en fait, non, ces fragments d'algues vont mimer le micro-organisme, de la même façon que vous, quand vous vous faites vacciner, en fait, on prend un petit fragment du pathogène, et bien là, en fait, on va utiliser un petit fragment qui ne vient pas du pathogène, mais dont on retrouve à l'identique chez les algues. Alors, les algues, parce qu'on peut en avoir en grande quantité. Et donc, on va parler d'éliciteur. Donc, ce qu'un éliciteur, c'est une molécule qui est capable d'induire la réponse immunitaire chez les plantes. Et donc, on va ainsi stimuler l'immunité végétale. Et donc, par exemple, c'est utilisé dans le cas de maladies contre le blé, comme l'oïdium, la septoriose, le pied de quinverse. On peut donc stimuler la réponse immunitaire de ces plantes. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau. Après, bon, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Mais vous avez ainsi plusieurs molécules qui sont commercialisées, qui proviennent éventuellement soit d'algues, qui peuvent provenir également de bactéries ou de micro-organismes et qui sont commercialisés comme stimulateurs de défense naturelle des plantes. Donc, je reviens un petit peu au niveau de ce qu'on fait, nous, au niveau de notre laboratoire. On a plusieurs contrats donc, avec des industriels, comme par exemple le groupe Rouillé à Saint-Malo, où on va essayer, nous, également, de tester de nouvelles molécules élicitrices, de regarder est-ce qu'elles sont capables d'induire une réponse immunitaire ou pas. Donc, nous, parmi nos projets de recherche, ça fait partie, en fait, de nos priorités de recherche et de nombreux contrats avec des industriels. Donc, aussi bien chez la plante modèle Arabidopsis thaliana pour comprendre les mécanismes au niveau fondamental, mais également sur des plantes d'intérêt agronomique, comme la pomme de terre ou bien encore sur le lin. Donc, je referme cette partie éliciteur. Et maintenant, je voudrais me focaliser sur la partie racinaire. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous parler au niveau de la réponse immunitaire végétale, ça a été fortement étudié au niveau de la partie aérienne, au niveau des feuilles. Si on regarde au niveau des plantes, la plante, elle est ancrée dans le sol, hein, elle ne va pas partir, elle est confrontée, s'il y a des pathogènes, il faut qu'elle y fasse face, elle ne va pas partir. Or, le sol, en fait, il est constitué, vous voyez, 10 puissance 11 cellules microbiennes par gramme de sol, c'est énorme. Alors, toutes ne sont pas pathogènes dedans, hein, il y a des micro-organismes qui sont bénéfiques pour la racine, mais dedans, vous avez également des micro-organismes pathogènes. Or, la racine, hein, c'est la face cachée de la plante. Elle est très peu connue. Alors, elle est bien connue pour d'autres aspects, mais pour tout ce qui est réponse immunitaire, pour tout ce qui est défense, que ce soit abiotique ou biotique, au niveau de la racine, on a beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins d'informations. C'est plus difficile d'accéder à cette partie-là et c'est également très complexe. Donc, au niveau racinaire, on sait finalement très peu de choses sur la réponse immunitaire. Mais ce qu'on sait, c'est que la réponse immunitaire au niveau de la racine, elle est différente par rapport à celle des feuilles. Donc, on ne peut pas extrapoler les résultats qu'on au niveau des feuilles au niveau de la racine. Or, la contradiction, c'est qu'au niveau racinaire, on a vraiment une multitude d'agents pathogènes. Donc, il y a vraiment un besoin de savoir qu'est-ce qui se passe plus finement au niveau de la racine. Donc nous, je vais arriver aux cellules bordantes, vous parler un petit peu des cellules bordantes de racines, qui est notre modèle d'étude au sein du laboratoire. Donc ces cellules, nous, on s'intéresse à la racine, mais plus principalement, on va s'intéresser à l'apex de la racine. Donc quand je parle de l'apex de la racine, c'est la pointe de la racine. Au niveau de la pointe de la racine, on a des cellules particulières qu'on appelle des cellules bordantes, ou encore les cellules frontières, qui vont se retrouver à chaque extrémité de la racine. Donc, si vous imaginez votre système racinaire en 3D, ça veut dire que vous les retrouvez, ça forme un peu un halo tout autour de votre système racinaire. Alors, pour vous expliquer ce que sont ces cellules bordantes, là, c'est une graine de pois qui a germé, hein, donc elle est âgée de 2 jours après germination. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire, hein, c'est une expérience qui est facile. Vous mettez une graine de pois, vous le mettez à germer. Alors, il ne faut pas que la racine traîne dans l'eau, hein, il faut que ce soit sec, plus ou moins sec, hein, donc sur un papier un peu humidifié. Puis vous le mettez, vous avez une binoculaire, une loupe, hein, voilà, il faut quand même pouvoir voir suffisamment. Vous prélevez votre racine et vous allez la réhydrater. Vous mettez une goutte d'eau à l'apex. Et en quelques millisecondes, en quelques secondes, voilà ce qui se passe. C'est que sous l'action de l'eau, vous allez avoir en quelque sorte une explosion de cellules qui vont se faire. Donc là, dans le cas du pois, quand je dis explosion de cellules, ce sont des milliers de cellules qui se trouvent relarguées. Donc là, sur ma lame de microscopie, mais si on est dans le sol, c'est des millions de cellules qui vont se retrouver relarguées dans le sol. Si on les regarde encore plus en détail, ces cellules, on voit qu'elles sont libérées de façon individuelle. Donc là, j'ai mis la photo de Martha Hoss parce que c'était la première chercheuse en fait, qui a mis en évidence le rôle de ces cellules. C'est la personne avec qui on collabore à l'Université d'Arizona. Donc au départ, ces cellules, elles sont encore très très peu connues parce qu'au départ, on pensait qu'elles étaient mortes, ces cellules. On pensait que c'était juste des cellules en train de se desquamer. Et donc, les chercheurs avaient un petit peu autre chose à faire que de s'intéresser à des cellules qu'on pensait être mortes, en train de se desquamer. Or, les premiers travaux de Martha Hoss ont montré que ces cellules, au moment où elles sont relarguées dans la rhizosphère, elles sont encore vivantes, ces cellules. Et non seulement elles sont encore vivantes, mais elles sont spécialisées dans la défense de la racine. Et de par leur position entre le sol et la racine, elles jouent un rôle, elles sont à l'interface entre les deux, elles jouent un rôle considérable dans la protection de la racine. Et donc ces cellules, on les utilise comme nouveaux modèles en fait, pour comprendre les interactions entre la racine, le micro-organisme, et comme potentiellement nouvelles sources de molécules antimicrobiennes. Donc voilà ces fameuses cellules bordantes. Elles sont capables, dans certains cas, d'attirer des micro-organismes. Elles sont capables, dans certains cas, de refouler d'autres micro-organismes. Et en analysant le contenu de ces cellules, on s'aperçoit que ces cellules, en fait, elles sont très riches, elles produisent et elles sécrètent dans l'environnement des molécules antimicrobiennes pour dégrader, par exemple, la paroi des champignons, des glucanases, des choses comme ça, des chitinases. Elles sont capables de produire des antibiotiques végétaux, des phytoalexines. Et si on prend le cas particulier donc, que nous avons étudié au laboratoire, hein, qui est le pathosystème entre le pois et un homicète du sol qui s'appelle Aphanomyces thaïchès. Si on illustre en fait ce rôle de protection avec ce pathosystème pois Aphanomyces thaïchès, si on prend une jeune plantule de pois, au début de l'infection, eh bien on se rend compte, ce que vous voyez en vert, ce sont les filaments de l'homicète, hein, le mycélium. Eh bien on s'aperçoit que toute la racine va être infectée à l'exception de l'apex où vous avez vos cellules bordantes. Donc il est suggéré qu'ici, vous avez une protection qui est bien localisée à ce niveau-là, là où vous avez vos cellules bordantes. C'est que donc ces cellules bordantes sont impliquées dans la défense contre le pathogène. Alors effectivement, là je vous emmène à une échelle subcellulaire. Là on est à l'intérieur de la cellule, on n'est plus du tout, là on est à l'intérieur de la cellule, là vous avez en fait c'est un micromètre, à peu près un micromètre, il n'y a pas de barre d'échelle, mais on est vraiment, en gros, faut être à des grossissements fois 20 000, fois 30 000 pour avoir ce type d'image. Quand on regarde cette cellule bordante en microscopie électronique à transmission, on s'aperçoit qu'en fait on a plein d'organites qui sont impliqués dans la synthèse de polysaccharides, de protéines. En fait, c'est une cellule qui va être hyperactive, qui va produire plein de composés qui sont pris en charge dans des vésicules. Et ces vésicules, elles viennent fusionner avec la paroi cellulaire végétale. Vous voyez un exemple ici, pour relarguer leur contenu dans la paroi cellulaire végétale et donc dans la rhizosphère, puisque vos cellules, elles sont isolées. Donc si elles sécrètent en dehors de la cellule, vous retrouvez ça après dans la rhizosphère. Et donc ces cellules sont extrêmement sécrétrices et vont produire de nombreuses molécules pour protéger votre cellule bordante. Et nous, au sein du laboratoire, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, rassurez-vous, mais au niveau du laboratoire, on a mis en évidence que parmi ces molécules qui étaient sécrétées, on avait des composés pariétaux qu'on appelle des arabinogalactanes protéines qui étaient très très riches et qui étaient produits en grande quantité au niveau de ces cellules-là. Donc ces arabinogalactanes protéines, hein, c'est des molécules qu'on retrouve au niveau de la paroi. Là, j'ai remis ma plante, la paroi. Ce sont des protéines qui sont fortement glycosylées, j'ai mis la structure ici, qui sont sécrétées en grande quantité dans ces cellules bordantes. Alors on peut se poser la question, pourquoi ? Quel est le rôle de ces arabinogalactanes protéines? Est-ce qu'elles jouent un rôle dans la défense ou pas? C'est ce qui nous a intéressé, c'est la question qu'on s'est posée. Donc pour essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on a fait? On a extrait ces arabinogalactanes protéines in vitro, on les a extraits, et on les a mis directement au contact avec le pathogène. Alors ce pathogène, c'est un homicète. Donc avant de passer sur nos tests in vitro, je vous explique dans le sol comment ça se passe pour voir après comment on a essayé de recréer in vitro. Vos pathogènes, ils sont là. Donc Aphanomyces, il est là. Il est mobile. Donc il va se déplacer dans le sol et il va être attiré par la racine, par chimiotactis. Une fois qu'il est attiré par chimiotactis au niveau de la racine, il va faire ce qu'on appelle, il va s'enquister, c'est-à-dire qu'il va perdre sa flagelle. Et son flagelle, et puis il va germer et son mycélium va envahir toute la plante. Voilà, donc voilà, il germe. Et puis ça va infecter le système racinaire. Donc voilà, très schématisé, le mode d'infection de la racine de pois par Aphanomyces thaïchès. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait sur nos dispositifs au laboratoire? On a mis d'un côté les zoospores et de l'autre côté, on a screené plusieurs molécules d'intérêt, dont nos arabinogalactanes protéines, qui sont synthétisées par nos cellules bordantes. Et donc, on veut savoir est-ce qu'elles ont un rôle ou pas. Et donc, ce qu'on a mis en évidence, c'est que ces arabinogalactanes protéines étaient capables d'attirer, par chimiotactisme, les zoospores. Bon, c'est les éléments pathogènes, donc bah, ils attirent, oui, bon, c'est peut-être pas très très bon pour la plante. Non seulement ils sont capables de les attirer, mais après, ils sont capables de forcer leur enquistement, donc ils les immobilisent. Et une fois qu'ils sont immobilisés, ils ne peuvent plus germer, en fait. Donc en fait, c'est comme si ces molécules étaient capables de les leurrer, en fait. Ils les attirent pour après pouvoir les immobiliser. Et donc, au cours de ces travaux, eh bien, on a montré que bah, finalement, ces arabinogalactanes protéines faisaient partie des molécules antimicrobiennes qui pouvaient être produites par ces cellules bordantes. Donc voilà un petit peu pour illustrer le rôle des cellules bordantes, les molécules antimicrobiennes qu'ils peuvent produire et leur rôle dans les interactions avec les micro-organismes. Toujours au niveau de ces cellules bordantes racinaires, ce sont des cellules qui sont capables également d'induire une réponse immunitaire. Donc là, vous voyez par des techniques d'imagerie, on a ici des cellules dans le cas d'Arabidopsis thaliana qu'on voit ici à ce niveau-là. Si vous mettez de façon artificielle un éliciteur, c'est-à-dire on va prendre par exemple un petit fragment de bactérie, vous les mettez au contact de ces cellules. Ces cellules, donc là c'est une autre bactérie, voilà, c'est pour vous montrer que ces cellules en fait interagissent avec les micro-organismes. Ces cellules sont capables de réagir en produisant des formes actives de l'oxygène. Donc on met un éliciteur, elles induisent une réponse immunitaire et elles sont capables d'induire également des molécules de défense. Si on regarde l'expression des gènes au niveau des cellules bordantes, eh bien on voit qu'en réponse à l'éliciteur, on a l'expression de gènes de défense spécifiquement au niveau de ces cellules. C'est pas tout, on a un renforcement de la paroi cellulaire également. Pour confiner hein, le potentiel agent microbien. Donc la paroi qui était là au départ, qui était constitutive, elle se trouve renforcée en réponse à l'éliciteur ou en réponse aux agents microbiens. Donc ça fait partie de la réponse immunitaire de ces cellules. Donc pour conclure sur ces cellules bordantes et sur la réponse immunitaire de la racine, eh bien, ces cellules bordantes, elles sont capables de produire des arabinogalactanes-protéines qui peuvent agir comme des molécules antimicrobiennes. Elles sont capables de produire des phytoalexines, des antibiotiques végétaux. Elles sont capables de produire des protéines destinées à détruire le micro-organisme, des enzymes qui vont détruire la paroi. Et puis, plus récemment, il a été montré que ces cellules étaient capables également de produire ce qu'on appelle de l'ADN extracellulaire. C'est l'espèce de petit réseau là, que vous voyez ici. Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises par le doctorant actuel du laboratoire, Marc Ropiteau, ici par le doctorant Abdoul Koroné, qui a travaillé sur le système de la pomme de terre. Donc ces cellules sont capables de produire de l'ADN extracellulaire. Donc pour conclure sur cette réponse immunitaire, eh bien, on a proposé de faire le parallèle entre ce qui se passe dans le système immunitaire humain, c'est-à-dire au niveau des neutrophiles dans le sang. Vous avez en fait un système qui s'appelle le NET, neutrophile extracellulaire trope, qui va former une espèce de réseau dans lequel en fait, il va pouvoir piéger les micro-organismes pour mieux ensuite les inactiver avec des protéines, etc. Et donc, on a émis l'hypothèse qu'au niveau des cellules bordantes de racines, eh bien, on avait le même système de réseau, c'est-à-dire que l'ensemble de nos cellules bordantes, avec tout le mucilage qui est autour, les arabinogalactanes protéines, etc., l'ADN extracellulaire, eh bien, pouvait former une sorte de réseau pour attirer le pathogène, l'immobiliser et faciliter en fait son inhibition ou sa destruction, sa mort. Et donc, ce système-là, on l'a appelé le route extracellular trap, par homologie avec le système immunitaire des animaux, qui est le NET, le neutrophile extracellular trap. Donc on a voulu faire en fait ce parallèle entre les deux modèles. Et donc à l'heure actuelle, eh bien, nos travaux visent à essayer de voir comment ces molécules interagissent en synergie. Donc là, vous avez l'exemple de la pointe racinaire. Tout ce mucilage, tout ce qui est exudé avec au milieu les petits points, ce sont les cellules. Comment elles peuvent, en fait, comme ce qui se passe chez les systèmes humains, former cette espèce de réseau avec l'ADN extracellulaire, les molécules, pour piéger les micro-organismes et pouvoir les détruire. Donc voilà, à l'heure actuelle, en fait, où nous en sommes au niveau de ces travaux. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de Marc Ropiteau. Ça fait partie, notamment, des travaux de notre doctorant actuel au laboratoire. Donc, pour terminer, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans ces travaux. Vous remercier également pour votre attention. Et si vous avez des questions à nous poser, que ce soit Asdine, moi ou ma collègue Marie-Laure, on se fera un plaisir de vous répondre. Moi, oui.